Chapitre 9. Dom Martin, ne pouvant garder plus longtemps le silence, dit à sa femme, un jour qu'il se trouvait seul, « J'avais eu l'idée de marier Paul et ma belle-fille. Eh bien, croirais-tu que ce négo a refusé et que Clémentia elle-même a eu l'air de trouver la chose fort peu à son goût ?»«
Tu aurais dû le penser, Martin. »«
Et pourquoi ?»«
Parce que s'ils avaient envie de se marier, ils y auraient pensé avant toi. »
« La jeunesse ne songe jamais à ce qui peut lui convenir. »«
Mieux vaut, Martine, qu'il en soit ainsi, car jamais, et encore moins dans la jeunesse, l'intérêt ne doit guider nos inclinations. »«
L'intérêt, l'intérêt, voilà le thème ordinaire des attaques de mon frère, le sujet des récriminations de Paul, le cauchemar de Clémentia, et voilà le refrain de la chanson que tu viens me chanter aussi. » Est-ce que, par hasard, je serais un homme intéressé sans m'en douter ?
Non, tu n'es pas intéressé, mais tu veux que les autres le soient.
De grâce, Martine, laisse à chacun sa liberté d'action, surtout en fête de mariage.
Si on t'écoutait, reprit Don Martine, les voitures iraient sans conducteur et les vaisseaux sans pilote.
Nous avons en nous-mêmes un conducteur et un pilote, c'est la conscience.
Tu fais de la théologie, ma femme. C'est comme si l'on voulait se servir du soleil pour brûler un moucheron. C'est comme dit la chanson. L'affaire de mon mariage devient ainsi qu'un conte. Plus on le répète, plus on le gâte. De toute manière, ceci me cause une vive peine. Cette union était le but de tous mes désirs.
Eh bien, Martine, n'insiste plus. Ne contrarie point leur volonté et suis le proverbe. Ronge ton frein et prends ton mal en patience.
Seigneur Don Martin, dit à ce moment la tante Latrane qui entra tout à coup, je viens de voir votre champ d'avoine. Dieu qu'il est beau! Il semble qu'on l'a arrosé avec de l'eau bénite, chaque épi en est gros comme le poing. J'ai tant remercié le bon Dieu que la langue m'en faisait mal, j'en ai pleuré de joie et même...
Trêve de préambule, ma bonne! « Voyons, que venez-vous me demander ?» dit Don Martin.
« Ah, Seigneur, je viens de si loin !»«
Que vous auriez bien fait d'y rester. À votre âge, on ne doit pas trotter ainsi. »«
Ah, Seigneur, le besoin fait trotter même une vieille !»«
Mais enfin, pourquoi vous tant fatiguer ?»«
C'est que ma nièce vient d'accoucher. »«
Allez chercher la sage-femme, c'est le plus court. »
« Oui, Seigneur, mais il faudrait faire un peu de bouillon pour la pauvre mère et christianiser l'enfant qui vient d'arriver sans qu'on l'appelle. »«
Dites à monsieur le curé que je me charge de tout et à Juana de vous donner des pois chiches et du lard pour le bouillon et décamper. »«
Oui, Seigneur, mais il y en aura bien la moitié pour moi. Et puis, si monsieur savait dans quel état se trouve mon pauvre petit champ de seigle, il n'y a que des chardons. »
Comment cela se peut-il, cette année surtout, où l'on dirait que les laboureurs ont à leur disposition la pluie et le beau temps?
C'est pourtant vrai, Seigneur, rien ne réussit à un malheureux. Aussi, je venais vous demander de me prêter un peu d'argent pour acheter un petit port et tâcher de me tirer un peu d'affaires.
Caramba, ne vous ai-je pas encore assez donné? Il vous faut bien du courage pour être aussi importune.
« Seigneur, dit la tante Latrane, faisant en guise de sourire une affreuse grimace qui mit en contact son nez avec son menton, qui ne risque rien n'a rien. » Puis, ajouta-t-elle de son ton naturel, « mesurez vos dons à ma misère. Prêtez-moi, Seigneur, pour le petit cochon. Celui qui fait du bien travaille pour lui-même. »
« Vous prêtez ? Et m'avez-vous rendu la somme que je vous avançais l'an dernier pour ensemencer votre champ de fèves ?
Seigneur, je ne l'ai plus encore, mais si vous voulez m'aider à acheter le petit cochon, je l'élèverai, je l'engraisserai, et l'année prochaine, sur le produit de la vente, je vous rembourserai.
Allons, nous n'avons pas encore le cheval et nous voulons déjà le seller. Je ne prétends pas être payé, mais je veux que vous ne fassiez plus de dettes. Cochon prêté crie toute l'année.
Seigneur, nous ne pouvons rien faire les uns sans les autres. Le proverbe dit, la bourse comme le cœur doit être ouverte à un ami. Et bien que vous soyez riche et considérée, et moi pauvre et malheureuse, je n'en suis pas moins votre amie, car nous sommes tous aussi bien fils d'Adam par la chair que fils de Dieu par l'esprit. Et me laisserez-vous tranquille jusqu'à la mort du petit cochon ?
Oui, Seigneur, oui, Seigneur.
Et je ne verrai plus votre affreuse figure ?
Non, Seigneur, non.
Et je n'entendrai plus votre voix criarde ?
Non, non, Seigneur.
Eh bien, allez dire à Miguel Gilles de vous donner un porc de 4 mois et filez.
Que Dieu vous le rende dans le ciel, Seigneur, et vous bénisse sur la terre. Il n'est pas un homme meilleur que votre seigneurie, dit la vieille en s'en allant.
Oui, oui, bien chante Madeleine quand sa besace est pleine, lui cria Don Martin. À ce moment, Miguel Gilles, tout effaré, arriva en criant
« Seigneur, la ferme de la Mata est en feu !»«
Qu'est-ce qui brûle ?» dit Don Martin.
« Les moissons.
A-t-on sorti le bétail ?»«
Oui, Seigneur.
Et les charrues et les autres instruments aratoires ?»«
Aussi.
As-tu averti Monsieur Paul ?»«
Il y court plus vite que le vent. »
« Alors, il n'y a rien à craindre, » dit Don Martin en reprenant son calme, « que la volonté de Dieu se fasse. » Les servantes étaient accourues et Madame de Guevard s'était mise à prier, invoquant la protection de Saint-Laurent contre l'incendie. Une heure après, Paul entra. Les vêtements, les mains, les cheveux brûlés, le visage enflammé.
« Eh bien, » demanda Don Martin.
« C'est fini, » répondit Paul.
« A-t-on sauvé quelque chose ?»«
Oui, la moitié de vos moissons, mais celles des pauvres gens à qui vous donnez des parcelles de terre sont entièrement perdues. »«
Et le savent-ils ? » demanda Don Martin.
« Hélas ! Comment pourraient-ils l'ignorer ? Ils y sont tous accourus et leur désespoir fend le cœur. »«
Ce sera comme s'ils n'avaient rien perdu. » S'ils n'avaient pas su que ce malheur atteignait leur portion, je le leur aurais caché, mais puisqu'ils le savent, dis-leur que la moitié de ma récolte est là pour les dédommager de leur perte. »
Les yeux de Paul brillèrent alors de tout l'éclat de la joie la plus vive. Puis, s'adressant à un domestique, «
Vite, un autre cheval !»
Et, sans attendre qu'il fût scellé, il s'élança dehors. Clémence, attirée par le bruit du tumulte et du galop des chevaux, quittait sa chambre. Elle arriva en ce moment dans la cour. Paul, en la voyant, lui cria «
Clémence, va embrasser notre oncle pour toi et pour moi !»
Et, sautant sur un cheval à poil, il partit comme une flèche porter l'heureuse nouvelle aux victimes du sinistre. Clémence, en entrant au salon, dit à son beau-père
« Paul m'a chargé de vous embrasser en son nom et au mien. »
« Mais pourquoi ? Qu'est-il donc arrivé ? » ?»«
Commence d'abord par t'acquitter de ta commission, et tu le sauras après, » dit Don Martin, qui, pleinement rassuré et le cœur satisfait par sa bonne action, avait repris sa bonne humeur habituelle.
« C'est cela. Un pour toi ?
Bien.
Et un autre pour lui. Paul a très bien fait de m'embrasser par procuration, » ajouta-t-il en serrant sa belle-fille dans ses bras.
« Mais qu'est-il arrivé ?» demanda Clémence, de plus en plus intriguée.
Alors les servantes, se disputant la parole, commencèrent, en pleurant et en bénissant leur maître, à raconter l'événement. Clémence, émue elle-même jusqu'aux larmes, se jeta de nouveau dans les bras de son beau-père, sans pouvoir dire une parole.
« Vois-tu, lui dit-il à l'oreille, il est bon parfois d'être riche.
Mieux vaut encore être bon. »
L'un et l'autre, reprit Don Martin, car pour faire une bonne œuvre, il faut 3 choses, ma fille, l'occasion, la volonté, les moyens. Puis, s'adressant aux servantes,
« Assez, assez, à vous entendre, on croirait que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. »«
Allons, Signora, » dit-il à sa femme, qui était impassible, regardant comme très naturelle la belle action de son mari. « Envoyez-moi toutes ces pleurnicheuses à leur affaire. » Et toi, Marie Ratatouille, si ta soupe est brûlée, je te chasse. Qu'avons-nous pour dîner ?
Un filet et du mouton rôti.
Pas de gibier ? Pas de volaille ?
Non, Seigneur.
Qu'il n'en soit plus ainsi désormais.
Je t'ai déjà dit que j'entendais que quand il n'y avait pas de gibier, il y eut de la volaille. Viande de plume chasse les rides. Ta mémoire est comme un panier percé, et je ne suis pas une montre à répétition, je t'en préviens. N'oublie pas de mettre des poulets pour le souper.
Martine, souviens-toi, dit Dona Brigida, que les chagrins et les soupers ont envoyé beaucoup de gens au cimetière.
Seigneur, tant que j'aurai des dents, je m'en servirai, répondit Don Martine.
Les servantes sortirent.
Martine, dit Dona Brigida, il faut souvent bien peu de fiel pour rendre amer beaucoup de miel.
Oui, Seigneura, mais à mauvaise servante, il faut maîtresse sévère. Ou les bons maîtres font les bons domestiques.
On dit aussi, Martine, la bienveillance chez le maître engendre le respect chez le serviteur.
Jésus, Seigneur, s'écria en entrant Miguel Gil, qui revenait de la ferme. Quel homme que Monsieur Paul! Il allait à droite, à gauche, passait partout, coupait par-ci, frappait par-là. Dans un clin d'œil, il a mis les gerbes à l'abri des flammes. Il appelait l'un, poussait l'autre, donnait à chacun sa besogne, à tous l'exemple. Les flammes semblaient le respecter. Ses ordres étaient si clairs, si précis, qu'on aurait dit que de sa vie, il n'avait fait d'autre métier. Ce n'est pas tout. Le père Audin, s'avançant pour sauver ses gerbes, trébuche, tombe. Monsieur Paul charge le vieillard sur ses épaules comme un enfant et revient, met les vêtements en feu, les mains et les cheveux brûlés. Nous nous sommes jetés sur lui et avons éteint les flammes qui l'environnaient. Voilà, monsieur, le señorito est un véritable cid, pour tout dire, un guévard. À tels arbres, telles branches.
Oui, oui, dit Don Martin, honneur à la branche digne du tronc.
Paul est un homme accompli, dit sa tante, l'or brille toujours.
Partout ailleurs que chez Don Martin, et surtout dans un monde investigateur, on aurait sans doute épié sur la physionomie de Clémentia l'impression produite par les éloges donnés à Paul. Il n'en fut pas ainsi au milieu de cette famille patriarcale. La joie du moment suffisait à leur cœur et ne laissait aux esprits ni le temps ni la volonté d'analyser les effets et les impressions de cet événement.
Clémentia, qui se serait sans doute repliée sur elle-même si elle se fût aperçue qu'on l'observait, se livra sans contrainte au sentiment d'admiration que lui inspirait la conduite de son cousin.
« Mais, Seigneur, dit Miguel Gil, l'incendie et ce que vous donnez aux pauvres enlèvent toute la récolte de cette ferme.
Dieu nous l'a donné, Dieu nous l'a ôté, lui seul est maître, dirent monsieur et madame de Guevara.
« Miguel Gil, dit Clémentia avec enthousiasme, ce que mes parents et mon cousin viennent de faire vaut mieux que 100 récoltes. »«
C'est vrai, señorita, répondit Miguel, ils ont récolté pour un grenier où le blé ne se pique pas. »